Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque pour cette sixième saison, c'est notre quatrième. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Guillaume Heras.
Bonjour Jean-Claude, bonjour Michel. Bonjour.
Maire de la commune de Saint-Marcel-sur-Aude et également un des vice-présidents du Grand Narbonne. Nous reviendrons sur ces sujets-là dans une troisième partie, Guillaume Heras. On a un sommaire, bien entendu, comme d'habitude, mais auparavant, je voudrais quand même, du fait qu'on a eu encore une demande d'intervention suite à la dernière émission, rappeler ce qu'est Radio Barque, ce que n'est pas peut-être aussi Radio Barque. En effet, certains ont des interprétations sur... les contre-regards, notamment de Michel. Alors, je rappelle que cette émission est composée de deux grandes parties, des contre-regards qui sont essentiellement issus d'un blog et présentés par l'auteur Michel Santo. Ce sont bien des contre-regards avec un ton souvent un peu satirique, voire ironique, mais basé sur des études, évidemment, de la réalité. Puis une deuxième grande partie qui est celle où on reçoit un invité, on l'interview. Évidemment, là, cet invité répond et dit ce qu'il pense. Je précise aussi que cet invité et cette émission est enregistrée la veille, mais elle est enregistrée dans les conditions du direct, j'insiste bien là-dessus. Donc il n'y a aucune coupure, aucun montage, aucune manipulation à ce niveau-là. Voilà. Donc ça implique pour des contre-regards que ça soit un point de vue, hein, pas forcément la vérité évangélique, mais il faut bien le rappeler, le ton est volontairement satirique et ironique, et pour ceux qui ne le digèrent pas, bah, écoutez, je suis désolé, mais c'est comme ça. Alors le sommaire, Michel, on est encore en France avec un certain droit de liberté d'expression, nous le défendons à notre façon, n'est-ce pas Michel ?
Oh que oui.
Alors, ton sommaire pour cette semaine, tout d'abord, est-il vrai, c'est une question, est-il vrai que 20 entreprises émettent 35% des émissions mondiales de CO2 ? Un grand sujet, on verra. Deuxième partie, alors plus locale, un coup de cœur et trois coups de gueule. Et puis, samedi, alors là, je te cite, Michel, samedi dernier, c'est ta bio, hein. Samedi dernier, je remontais la rue droite, à Narbonne, et me suis trouvé face à la REM. Bon. Nous commençons par ta question environnementale.
Oui, alors c'est pas qu'une question environnementale, c'est aussi une réflexion mais qui est assez récurrente hein, ici à cette radio sur la manière dont fonctionne en fait notre offre de d'information, c'est-à-dire comment fonctionnent les grands médias et comment, en certaines occasions, leurs titres laissent plus que rêveurs et sous l'apparence de la vérité, en réalité, expriment une position complètement erroné ou en tout cas artificiellement vrai et fondamentalement fausse.
Ouais, c'est-à-dire, sous des aspects de transparence, il y a une très forte opacité en
exactement.
Réalité.
Et là, je vais prendre l'exemple d'une étude qui a été faite par un institut américain très renommé et très réputé, qui travaille sur les questions de climat, et qui a été rapporté par un journal anglais qui s'appelle Le Guardian, qui est un journal dit de gauche,
oui,
mais
c'est
un journal de référence quand même en Angleterre.
C'est un journal très sérieux et très prisé par les intellectuels anglais.
Exactement, mais et qui article qui a été repris par tous les grands médias français, Le Figaro, Le Monde, Nouvelle Obs, Libération, etc. Bref, les grands médias, ceux qui font et produisent l'information dans ce pays, et qui suivent attentivement par ceux qui intéresse et puis, de manière générale, l'intégralité des intellectuels et de la classe politique française.
Ouais. Donc, permets-moi juste une toute petite parenthèse à propos de ce fameux Guardian. C'est un journal non pas de Londres, mais de Manchester, c'est-à-dire d'un journal de province. Et je fais remarquer qu'en Angleterre, on peut être un journal de province et être quand même un journal de référence, contrairement à ce qui se passe à la France.
Incontestablement. Donc cette étude qui est rapportée par ce journal dont tu viens de dire à quel point c'était un bon et un grand journal, révèle le nom de 20 entreprises qui ont émis pas moins de 480 milliards de tonnes de CO2, soit 35% des émissions mondiales depuis 1965.
Ouais, alors une cinquantaine, un demi-siècle, on va
exactement,
dire.
Hein. Et sur le podium de ces 20 entreprises, hein, on trouve évidemment, tout cas, bon, pour ceux qui s'intéressent à ce genre de questions. La compagnie saoudienne Saudi Aramco, hein, qui en produit 60 milliards, en fait, qui en aurait produit 60 milliards, pardon, hein, suivie par l'américaine, là, évidemment, j'allais dire, Chevron, qui a généré 43, et puis la troisième, qui est la russe Gazprom, qui en a fait à peu près 43. Gazprom, c'est le gaz, évidemment.
Et c'est russe.
La France a une grande entreprise internationale qui s'appelle Total, qui est dans ce secteur, mais qui n'arrive qu'en 17e position, ce qui n'est pas mal quand même, des 20 entreprises en question.
Position mondiale. Hein,
en question. Et ce qui amène, quant à la lecture de ce résultat, pas mal de gens à pointer du doigt ces entreprises qui seraient responsables, effectivement, de la dégradation du climat. Ce que exprime, et avec beaucoup d'émotion, un des experts mondiaux sur le sujet, qui s'appelle Michael Mann, et qui dit, voilà, la grande tragédie de la crise climatique est que 7 milliards et demi de personnes doivent en payer le prix, en fait, de cette pollution, en fait, au CO2, qui serait le résultat de la production, si je puis dire, de ces 20 entreprises. Sauf que... quand on analyse le contenu, cette étude...
Oui, comment parvient-on à ces chiffres?
On arrive à la conclusion que, ces chiffres ne sont pas le résultat de la seule activité de ces entreprises en question, c'est-à-dire l'extraction et la production de carburant, en fait, ou de charbon. Non. C'est
la consommation.
C'est non seulement cette production interne, si je puis dire, ces entreprises, qu'elle en a ajouté la consommation, l'utilisation finale, effectivement, de ces produits, c'est-à-dire... les entreprises, enfin bref, tous ceux qui peuvent ou prouvent dans le monde utilisent du gaz, du charbon et de l'électricité pour se chauffer, pour rouler.
C'est très trompeur de l'attribuer uniquement à certaines entreprises.
Cette production interne de ces grandes compagnies ne représente que, tiens-toi bien Jean-Claude, 10% de la production de CO2 en question. Ça veut dire que 90% restants sont effectivement le résultat de la consommation de ces produits partout, par les 7 milliards d'habitants de cette planète.
Voilà. Donc nous sommes fiers de participer au même titre que les grandes entreprises.
Exactement. Alors, une chose qui m'a aussi interpellé, c'est que, contrairement au sens commun qu'on peut avoir sur ces chiffres et arriver à la conclusion, par exemple... que le principal producteur de CO2 aujourd'hui sur la planète, c'est la Chine.
Aujourd'hui,
la Chine, qui produit le maximum de CO2. Sauf que, là aussi, quand on rapporte...
La Chine, il y a 1,5 milliard de Chinois.
Justement, c'est quand on rapporte cette production au nombre d'habitants, on se rend compte, par exemple, que la production, le nombre de tonnes par habitant en Chine, est inférieure de 30% à la production de tonnes par habitant d'un citoyen membre de l'Union européenne. Première remarque, donc attention là aussi aux chiffres qu'on vous présente en vous disant les Chinois sont les principaux. Oui, certes, mais parce qu'ils sont à un degré de développement qui est nettement moindre que le nôtre. Je parle des pays dits occidentaux et l'Européen en particulier. De sorte que si on rapporte effectivement cette production par habitant, on se rend compte, cette information justifiant ce que je viens de dire précédemment, qu'effectivement nous produisons beaucoup plus de CO2 par habitant. Et j'ajoute que si on tient compte en plus de cette production par habitant au fait que ces chiffres ne prennent en compte que la production, je dirais, interne de CO2, c'est-à-dire ce que nous produisons en France, par exemple, comme CO2, je dirais, sur le territoire national. Sauf que nous sommes aussi, globalement, je parle de la France, un pays consommateur. Ça veut dire que nous importons du CO2 venu d'autres pays. De sorte que si on faisait la balance réelle entre ce qui est produit comme CO2 en France et ce qui est consommé, pareil pour les autres pays, on se rendrait compte qu'effectivement, les pays dits développés comme la France, qui ne produit que apparemment, facialement, que 1% de CO2 au niveau mondial, en produit beaucoup plus.
Oui,
tout ça pour dire qu'effectivement, il faut faire attention aux chiffres qu'on vous présente.
Voilà, relativiser énormément ces fameuses études pseudo-scientifiques.
Faire l'effort de comprendre un petit peu ce qu'ils cachent. Et ça demande un minimum de travail. Pas de production de CO2, celui-là, un travail intellectuel.
qui permet
de relativiser les choses et de ne pas avoir un jugement un peu trop simpliste sur les choses. Je termine simplement en prenant l'exemple de notre territoire. On a aujourd'hui fait des associations qui se battent contre la production de CO2 que va induire, que va produire la colonne que va réaliser Orano pour traiter les effluents, les effluents nitratés.
Le traitement des
nitrates. Ils se battent là-dessus. Oui. Sauf que aujourd'hui, sur notre territoire, indépendamment de cette tour, la production de CO2 qui résulte du trafic autoroutier, de l'ensemble du trafic de routier fait sur la Narbonnaise, est, comment dirais-je, 1000 fois plus importante que celle qui sortira de la fumée faite de cette cheminée d'Orano.
Voilà. Alors, ben, tu l'avais d'ailleurs déjà signalé, va conclure là-dessus. Alors,
je ne dis pas qu'effectivement, bon, cela n'est rien. Enfin,
non,
mais quand même, il faut aussi relativiser.
Plus, mais...
Alors, je termine encore, enfin, un dernier petit point. Bon, ces deux associations, Rubrisus et d'autres, ont attaqué, Orano,
tribunal administratif
pour faire tomber. Ils ont été battus en première instance. Donc,
Ils ont fait appel.
C'est bien. Mais de là, à les entendre et à lire dans la presse que c'est pas étonnant que les tribunaux les contestent, parce que les tribunaux, comme les experts, c'est lié à l'État, et donc lié à l'État, comme Orano est une grosse entreprise, ils ne pouvaient pas faire autrement que d'approuver effectivement ces arrêtés. Ce qui voudrait dire dans l'esprit de certains que il faudrait décider à l'applaudimètre des militants si oui ou non une technique est scientifiquement correcte.
Voilà.
Ce qui est absurde, évidemment.
Et on marque une première pause.